Chapitre 16e. Dans sa jeunesse, mon père avait donné des leçons dans une puissante et nombreuse famille, les Rivières de Sessac, dont un des membres était général. Mon père se trouvait dans une situation assez bizarre envers elle. Il avait gardé depuis 20 ans, malgré sa fierté, des relations avec cette famille, nous disant toujours à ma mère et à moi qu'on ne savait jamais ce qui pouvait arriver dans la vie et que des gens comme eux pouvaient un jour être utiles. Mais jamais il ne leur avait rien demandé, ni en 1914, ni quand il avait perdu sa situation, ni dans toutes les circonstances dramatiques de sa vie. Rien ne lui avait jamais semblé assez grave pour justifier une telle démarche. C'est ce qui arrive souvent aux natures fières comme celle de mon père. De plus en plus, je me rendais compte que je n'arriverais à rien et que j'allais finir par me faire prendre. Je n'avais presque plus d'argent. Je n'osais plus habiter chez personne, car chaque fois, au bout de très peu de temps, un incident surgissait, et ce que je cherchais, une chambre indépendante, je ne pouvais pas la trouver. Je n'étais cependant pas encore trop inquiet. La Providence veillait sur moi. Selon que l'on est né sous une bonne ou une mauvaise étoile, les choses s'arrangent bien ou mal. Or, j'étais né sous une bonne étoile. J'avais toujours eu de la chance, témoin ces possibilités du côté de mon père. Chaque fois que j'avais cru que ma situation était désespérée, elle s'était arrangée. Il y avait bien eu dans ma vie le rythme des hauts et des bas, mais jamais un bas définitif. J'allais remonter, je le sentais, c'était imminent. Or, au moment où je me disais cela, je tombais encore plus bas. Je ne mis cependant pas cet accident sur le compte d'un changement du ciel à mon égard. Je m'étais trompé. J'avais cru que j'étais au plus bas alors que je n'y étais pas encore. Je me demandais cependant si je ne m'étais pas fait des illusions sur cette protection divine. Alors, tout à coup, il m'a paru que je venais de commettre une grande erreur. Je compris que je n'apportais plus à ma défense la même énergie qu'au début. Trop de temps s'était déjà écoulé depuis mon évasion. Mon énergie s'était émoussée. Ne voyant rien arriver, je m'étais laissé tromper par l'illusion qu'il ne m'arriverait rien. J'étais puni, pas encore trop sévèrement. Le ciel m'envoyait un avertissement. Si je voulais vivre, il fallait que je lutte, que je perdisse ce défaut de m'en remettre à ma chance. J'oubliais que j'étais déjà depuis 14 mois en liberté. J'allais agir. Je me remis dans la peau de l'homme que j'avais été en arrivant à Paris. Rien ne serait plus bête que de se faire prendre au moment où les plus grosses difficultés semblaient avoir été surmontées. C'est pourquoi je résolus de demander à mon père d'intervenir auprès de Rivère de Sessac. Il pouvait tout de même faire cela pour moi. Avec l'appui du général, je pouvais entrer dans l'armée ou obtenir une fonction officielle quelconque où personne ne songerait à me chercher, passer régulièrement en zone libre. Et puis, j'éprouvais le sentiment bizarre qui fait que quand des gens puissants s'occupent de nous, quand nous avons réussi à leur faire savoir que nous existons, même s'il nous arrive un malheur, nous le supportons beaucoup plus facilement. Au fond, ce qui nous fait paraître un malheur si grand, c'est le sentiment que tout ce qui aurait pu être fait pour l'éviter n'a pas été fait. Mon père, après bien des hésitations, se décida à aller voir Rivère. Je le sentais gêné de dire que je m'appelais à présent Tinet. Chaque fois qu'il se décidait à contre-cœur, il ne fallait surtout pas l'encourager ni le presser. Quand ma jeune sœur était morte, et cela au moment des histoires de mon père au lycée, même à ce moment, il n'avait pas été voir les Rivères, et mon histoire était moins grave, mais heureusement, les années avaient passé, changeant l'importance des choses. J'attendis la réponse toute la journée. Enfin, mon père vint au rendez-vous. Il n'avait pas remis ses vêtements de tous les jours. Mon père s'endimanchait rarement, mais quand il le faisait, il ne rentrait pas pour se changer, et il passait le reste de la journée dans sa belle tenue, montrant une grande excitation, un grand désir d'accomplir d'autres choses exceptionnelles. Il me raconta la visite qu'il venait de faire. C'était entendu. Il n'avait pas osé dire que je portais un faux nom. Mais cela n'avait pas d'importance, selon lui. Je n'avais qu'à aller voir Rivère dans quelques jours. Le général était assis dans une bergère, à la meilleure place, au pied d'une sorte de lampadaire d'appartement. Un portrait était posé sur un petit chevalet bien ciré, copie à l'usage des oisifs d'un instrument de travail. Il était vêtu de son uniforme, il avait mis ses lorgnons. Sa femme était assise de l'autre côté de la cheminée. C'était un véritable tableau de vie familiale. Accroupie sur un pouf, sa fille Monique lisait. Dans un fauteuil, son autre fils Solange écrivait sur ses genoux. Monsieur Rivert de Sessac était grand, bien découplé. Sa femme était encore jolie. Il formait un de ces couples bourgeois, sous la respectabilité desquels on devine la satisfaction de posséder un physique aussi vigoureux que celui du peuple. Monsieur Rivert se leva. C'était une marque de grande confiance qu'il me faisait en me recevant ainsi, chez lui, au milieu des siens, au lieu de me recevoir à la caserne. Mais depuis la guerre, le secret des intérieurs n'avait plus la même importance. Il me présenta à sa femme. Elle me sourit gentiment de l'air d'une femme que les hautes fonctions de son mari mettent nécessairement en contact avec les gens les plus divers. M. Rivert était un de ces hommes qui semblent tristes, mélancoliques, comme revenus de bien des choses, mais qui, également, ne donnent pas moins l'apparence de ne pas être commodes. Ils sont tristes parce que la vie leur paraît laide, parce que les hommes ne sont pas honnêtes, parce qu'ils ont conscience du peu de choses qu'ils sont sur cette terre. Mais il faut lutter contre la tristesse, et l'on sentait que dans cette lutte, M. Rivert était toujours victorieux. Je racontais mon histoire. Je voulais rentrer dans l'ordre, vivre normalement, ne plus être obligé de me cacher. Il m'écouta avec beaucoup d'attention, me pria de revenir le lendemain. Il m'annonça alors qu'il allait me donner une lettre pour le colonel D, chef du recrutement de Lyon. Il me demanda peu après les papiers que je lui avais promis de lui apporter. Je lui dis que je n'avais pas eu le temps d'aller les chercher, mais que je les lui apporterais le lendemain. En réalité, je ne voulais pas qu'il s'occupât de moi en tant que fils du professeur de Talouet, mais en tant que Tinet, et je n'osais pas lui dire que j'avais de faux papiers. Je croyais qu'il l'aurait deviné. Ma réponse fit mauvais effet. Mais le général avait tant de prétentions à l'impartialité qu'il ne voulut pas s'abandonner à une première impression. Il me dit « Eh bien, je vous donnerai la lettre demain. » Toute la soirée, je me demandais si je devais ou non lui apporter mes papiers militaires. J'avais peur qu'il ne me les rendît pas, qu'il ne les passât à d'autres officiers. J'avais cru naïvement qu'il agirait en ma faveur sans me demander de précision. Je voulus le croire encore et je retournai le lendemain, toujours sans mes papiers, espérant qu'il me donnerait quand même la lettre promise. Mais je me trompais. Il n'avait pas oublié ce qu'il attendait de moi. La première chose qu'il fit fut de me demander mes papiers, et cela sur l'air d'un homme qui ne doutait pas une seconde de ma bonne foi. Quand je lui dis que je ne les avais toujours pas apportés, il ne broncha pas, mais je sentis que tout était fini entre nous. Il me dit avec un sourire qui me glaça qu'il n'aimait pas beaucoup cette façon d'agir. Ce second oubli était à ses yeux impardonnable, et il n'y avait pas moyen de s'entendre avec moi. J'étais définitivement catalogué comme un sauteur. Je me moquais de lui. J'avais menti en lui disant que j'attachais tant de prix à sa gentillesse. Il ne laissa paraître aucune mauvaise humeur. C'était la vie. Il ne lui restait plus qu'à agir en conséquence. Il ne regrettait pas de s'être intéressé à moi. Il allait simplement ajuster son attitude à ma conduite. Il éprouvait une certaine tristesse, une désillusion de plus. Sa femme entra à ce moment dans la pièce. Il la pria de nous laisser seuls. Je sentis que c'était une façon de reprendre ses distances, qu'il ne me jugeait plus digne d'être admis dans son intimité, et le fait qu'une raison aussi insignifiante eût dicté son attitude me frappa beaucoup. Il m'apparaissait de plus en plus clairement que M. Rivert n'avait plus confiance en moi. J'avais cru pouvoir obtenir de lui un appui sans qu'il s'en aperçût, si haut placé me semblait-il par rapport à moi. Mais c'est une erreur de croire que les gens haut placés ne savent pas ce qui se passe au-dessous d'eux. Ils le voient très bien, je m'en rendais compte à présent. En suivant la rue de Grenelle, j'eus un vertige. À la longue, toutes ces émotions commençaient à affecter ma santé. C'est très joli de se tirer d'affaire, mais encore fallait-il ne pas y laisser la santé. Quand on tombe à l'eau, il n'y a pas que le sauvetage immédiat qui compte. Il faut aussi ne pas attraper une congestion pulmonaire. Je résolus de faire mon possible pour limiter mes émotions. Il se passait déjà depuis un certain temps quelque chose d'inquiétant en moi. Par moments, alors que je ne risquais absolument rien, je ressentais soudain un coup exactement aussi violent que si l'on était venu m'arrêter. Il m'aurait fallu des calmants, du repos, une bonne hygiène.